VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. L'ONU a annoncé ce mardi l'envoi d'une équipe d'enquêteurs au Mali après la tuerie perpétrée dans le village Peul d'Ogassagou, dans le centre du pays, par de présumés chasseurs Dogon. Massacre qui a fait 160 morts. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, s'est rendu lundi sur les lieux de la tuerie pour présenter ses condoléances et celles du peuple malien aux familles des victimes. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Les populations d'Ogassagou continuent de découvrir des corps sous les décombres. C'est ce qui fait que le bilan provisoire est de 160 morts, selon Amadou Diallo, conseiller communal à Bankass. C'est dans ce contexte que le président de la République, à bord d'un hélicoptère de l'aménagement, est venu se recueillir sur les trois fosses communes du village martyrisé.
C'est un sentiment de réconfort dans un premier temps, surtout par rapport au déplacement du président de la République lui-même, venir en tout cas leur présenter les condoléances de la nation entière et la solidarité du peuple malien.
Ibeka a échangé avec les restants des habitants du village d'Ogassagou.
Nous avons le devoir de faire en sorte que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donné. En termes d'organisation, en termes de capacité d'anticipation, en termes de rapidité d'intervention, en cas d'alerte, je ne peux pas tout tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre une à deux heures avant d'être sur le lieu.
Le président a donné des assurances aux populations tout en interpellant les chefs militaires.
Nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes en temps de guerre. Aucun pilote d'hélicoptère, aucun pilote d'un vecteur aérien pouvant intervenir sur le théâtre d'opération ne peut aujourd'hui avoir ses aises. Nous ne devrons plus être surpris.
Ibeka a terminé sa visite par les blessés au nombre d'une soixantaine à l'hôpital régional de Mopti, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso voisin, la communauté Peul du centre-nord du pays se remet lentement des tueries de Yogou en janvier de cette année. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires s'activent sur les sites d'accueil des déplacés internes, comme celui de Barsalogo, pour apporter les soutiens nécessaires aux familles affectées. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, s'est rendu sur place.
Dès le matin, sur le site des déplacés internes de Barsalogo, l'administrateur du camp mène sa ronde. Voici près de trois mois qu'il est en charge de la bonne marche de ce camp où sont regroupées des centaines de personnes ayant fui les massacres des populations peules de Yirgou.
Nous avons au total 83 tentes qui abritent plus de 252 ménages. À la date du 31 janvier, il y avait 1132 personnes déplacées internes, composées essentiellement de 646 enfants, 197 hommes et 289 femmes.
Dressés à perte vu, ces abris temporaires sont les témoins du traumatisme encore présent au sein de ces déplacés internes, parmi lesquels Dieneba Diallo, 60 ans, du village de Sago. Elle a perdu 6 membres de sa famille dans le massacre du début de l'année.
Ils sont venus brûler nos greniers, nos maisons, tuer 3 de mes fils, mon époux et ses 2 frères. Nous avons passé 3 nuits dans la brousse avant d'être secourus par la mairie de Barsalogo. Nous sommes 31 personnes à être amenées ici, où l'on prend soin de nous, comme les auteurs sont toujours en liberté, difficile de penser à y retourner.
Un service d'assistance psychosociale aide les familles touchées par le drame à se reconstruire. Cela a apporté des changements positifs dont se réjouit le responsable de la cellule psychosociale, Noël Konkobo.
Le fait qu'ils étaient dans la nature sans protection et avec le problème respiratoire. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des services de santé, la fréquentation n'est plus tellement ça. Au niveau psychosocial, c'est le traumatisme qu'ils ont subi. Quand vous les écoutez, vous êtes en face d'une personne qui est carrément absente, ou bien quand vous évoquez un problème avec la personne, elle commence à pleurer. Je peux dire que ça produit des fruits parce que au tout début, quand vous regardez le visage des gens, vraiment c'était crispé. Aujourd'hui, quand on est sur le site, eux-mêmes ils plaisantent avec nous.
Dans ce camp, les déplacés se sentent en sécurité, même s'ils trouvent leur vie quelquefois difficile, explique Boukari Barry, 40 ans, venu du village de Foubé.
Nous n'avons pas assez de temps et la chaleur qu'elles produisent est difficilement supportable. Dans celle-là, nous sommes 40. Là-bas, ils sont 37. Là, ici, il y a 29 personnes. Nous souhaitons plus d'habits, plus d'eau potable. Avant, nous étions actifs, on faisait du commerce, l'orpaillage. Maintenant, nous ne faisons rien. On passe le temps à boire le thé, on emprunte de l'argent. Nous avons pourtant besoin de travail, car on ne peut plus rentrer chez nous. Les Kogologos y sont toujours.
En dépit des efforts du gouvernement et des partenaires, les difficultés résiduelles persistent sur le site, reconnaît l'administrateur du camp, Ali Tapsoba.
Comme nous entrons dans la période chaude, nous avons 2 fourrages et un baladeur de 10 000 litres, mais ça ne permet toujours pas de couper. couvrir les besoins à nous. Sinon, sur tous les autres points, on peut saluer les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Parce que la plupart des familles ici disposent des kits d'hygiène, kits de cuisine. Les vivres sont distribués selon leurs habitudes alimentaires.
Dans ce site de Barsalgo, les déplacés se remettent lentement mais sûrement du drame vécu à Irgou, tout en s'interrogeant sur l'avenir qui les attend désormais. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En République centrafricaine, trois importants chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux militaires à la primature, selon un décret présidentiel rendu public lundi. Le point avec Morgan Guiriek.
Ali Darassa, chef de l'UPC, Mahamat Al-Khatim, chef du MPC, et Bissidi Souleyman, alias Sidiki, chef du groupe armé Les 3R, seront chargés auprès du Premier ministre Firmin Grébada de la mise en place des unités spéciales mixtes prévues par le dernier accord de paix. D'autres chefs rebelles ont été nommés conseillers spéciaux à la primature, dont Adama Chaibou du MPC, chargé des relations avec le monde arabe. Le décret présidentiel précise que ces conseillers ont rang et prérogatives de ministres délégués. L'annonce au début du mois d'un nouveau gouvernement centrafricain avait soulevé une vague de protestations des groupes armés qui contrôlent 80% du territoire. Vendredi, le président Faustin Touadéra a donc nommé une nouvelle équipe, leur accordant plus de portefeuilles sans leur confier de ministère régalien. L'accord de Khartoum, signé le 6 février à Bangui, est le 8e depuis le début de la crise en 2013. Aucun des précédents accords n'a abouti à un retour de la stabilité. La présence de la MINUSCA, forte de 11 000 casques bleus, n'a pas réussi non plus à ramener une paix durable dans le pays.
Élections aux Comores, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche se font toujours attendre dans cet archipel de l'océan Indien où règne ce mardi un climat de vive tension entre le camp du président sortant Azali Assoumani, déterminé à l'emporter, et ses adversaires qui crient à la fraude généralisée. Deux jours après la présidentielle de dimanche, le décompte des suffrages est toujours en cours au siège de l'Assemblée nationale à Moroni, la capitale, transformée en centre de dépouillement. Selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, l'annonce du verdict des urnes pourra intervenir dès aujourd'hui. Mouvement de contestation en Algérie, le Front de Libération Nationale FNL, le parti du président Abdelaziz Bouteflika, resserre les rangs après la réunion de sa direction lundi soir. Le porte-parole du parti, Ousmane Khaldoun, a déclaré que la proposition de sortie de crise préconisée par le chef de l'État est la meilleure et que le FNL est opposé à toute vacance au sommet de l'État. Dimanche dernier, ce même porte-parole avait publiquement jugé inutile le plan de conférence nationale unanimement rejeté par la population et proposé d'élire un nouveau chef de l'État dès maintenant, avait-il précisé. Confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, le président Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat le 18 avril et reporté sine die le scrutin présidentiel, en promettant de remettre ses pouvoirs à un successeur élu au terme d'une conférence nationale chargée notamment d'élaborer une nouvelle constitution. Algérie toujours. Toufik Keladi, directeur général de la télévision nationale, a été limogé hier. Les journalistes du service public contestent la censure dans la couverture des manifestations réclamant le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Les raisons du limogeage de Toufik Keladi n'ont pas été précisées. En poste depuis 2012, après avoir dirigé la radio nationale, il faisait face depuis près d'un mois à une fronde de ses employés. Comme leurs collègues de la radio nationale, les salariés de la télévision publique dénoncent des pressions de la hiérarchie qui les a contraints à passer sous silence les manifestations ou d'en parler en adoucissant les exigences de la rue. Hier, plusieurs dizaines de salariés de la télévision nationale ont manifesté à Alger. « Il y en a marre de la censure », ont-ils scandé en réclamant une télévision libre et démocratique. Depuis le début des manifs, le 22 février, une rédactrice en chef de la radio nationale et une présentatrice du journal de la télévision publique ont claqué la porte. Outre les défilés monstres chaque vendredi, les avocats, architectes, vétérinaires, employés communaux et des magistrats de la Cour des comptes ont manifesté hier à Alger et de nouveaux rassemblements étudiants sont attendus ce mardi à travers tout le pays.
Et pour terminer, en Afrique australe, des milliers de rescapés toujours isolés 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Idai au Mozambique et au Zimbabwe vont pouvoir enfin recevoir nourriture, tentes et médicaments grâce à la réouverture d'axes routiers clés. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.